18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonsoir chers amis auditeurs, quel plaisir de vous retrouver. Vous savez, c'est toujours un plaisir quotidiennement de se retrouver, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre partout en France, de 18h jusqu'à 19h30. Alors au sommaire, chers amis auditeurs, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien au menu, eh bien nous attendrons d'abord plusieurs choses. Oui, nous serons avec celui que vous connaissez, M. Khaled Bencher, le patron de la Fondation Islam de France, qui viendra nous parler d'un sujet extrêmement sensible, la cyber-influence citoyenne. Ah, ça vous concerne, vous? Ça nous concerne tous, chers amis. On en parlera dans une poignée de secondes. À 18h20, Pascal Boniface viendra avec son Quad 9 nous parler des enjeux politicaux, la géopolitique israélo-palestine. C'est une vraie question. Avec Pascal Boniface, on tâchera de décrypter cette actualité. Ensuite, vous le savez, j'ouvrirai l'antenne au 01 53 48 3000. Partout en France, je voudrais vous entendre sur une question. Lorsque vous êtes, évidemment, je partirai d'un fait divers, celui de cette jeune Siam retrouvée morte. C'est complètement atroce. Je vous avoue que ça m'a touché. Touché au point où je me suis dit, il faut que je fasse un sujet concernant la mort de Siam, alors qu'il n'y a pas de relation amoureuse, hein. Là, on parle d'un meurtre dans le Gard. Je voudrais ouvrir l'antenne parce que je voudrais qu'on en parle ensemble, converser justement avec les agressions, avec les agresseurs, avec les psychopathes, avec tous ceux qui sont dans l'univers qui gravitent autour de cela. Est-ce que vous prêtez attention à tout ça? Lorsque vous-même, vous suspectez quelqu'un qui vient ou qui vous approche, je sais que ça touche essentiellement les demoiselles, les femmes, comment vous réagissez? Comment vous vous comportez face à ces individus? 01 53 48 3000. Ça se passe tout à l'heure à partir de 18h20. Et puis les débatteurs influenceurs, vous savez, les voix qui confrontent leur point de vue sur les sujets d'actualité. On parlera bien sûr forcément de cette réforme des retraites. Est-ce que Emmanuel Macron finira par céder? Par céder, évidemment, je fais référence à la rue. Ou est-ce que tout simplement, eh bien, le 49-3 est là pour dégainer? Clochette? Ou tout simplement, la majorité relative fera son affaire, clochette. Ensuite, nous parlerons, eh bien, de cette volonté de censure. Ça, c'est la femme de Salah Hamouri, qui réagit à l'annulation de sa venue à Lyon. Vous savez que ça fait une grosse polémique lyonnaise, hein. On en parlera tout à l'heure. Et puis, on parlera du projet de loi immigration et intégration, qui, lui, suscite des interrogations. À double clochette. Aïe, 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 que de sujets, chers amis auditeurs. Eh oui, c'est notre quotidien. J'avoue, c'est morose. Mais on va essayer d'apporter un peu de couleur ce soir. Allez, c'est parti. Ah, j'allais oublier. Anthony, bonsoir. Anthony, notre réalisateur.
Bonsoir, Adil.
Comment ça va?
Bah écoute, ça va, j'ai un peu le casque trempé, mais ça va.
Bon, tant que c'est pas autre chose, ça va.
Merci la bouteille d'eau qui a éclaté.
C'est ça. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, et Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Allez, c'est parti pour l'interview du jour.
Les Informés. L'interview.
L'interview, c'est avec le patron justement de la Fondation de l'Islam de France. Le président, monsieur Khaled Bencher. Bonjour, et quel plaisir de vous recevoir. Bonjour, monsieur le président.
Bonsoir, bonsoir cher Adil, bonsoir à travers vous-même à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Beurre FM. Je suis extrêmement heureux de m'adresser à vous.
Moi aussi, partagé. Et vous savez évidemment qu'on suit la Fondation de l'Islam de France de très près, où on suit également tout ce que vous entreprenez. Mais on parlera ce soir d'un sujet qui nous concerne tous, c'est la cyber-influence citoyenne. Voilà un sujet numérique en action, la citoyenneté numérique en action. Pour quelle raison vous avez décidé de lancer ce projet concernant cette influence cyber?
Alors, pour trois ou quatre raisons, mais que je résume d'une manière télégraphique. La première, c'est que nous, Fondation d'Islam de France, nous nous intéressons essentiellement aux considérations éducatives, culturelles, sociales et pas nécessairement cultuelles et religieuses. Mmh. Parce que la jeunesse française et particulièrement la jeunesse musulmane fait partie de la nation et elle doit répondre avec les outils qui sont ceux de la jeunesse oui. actuellement et notamment les réseaux sociaux dernière génération.
Et vous avez raison.
Nous ne pouvons pas déserter ce milieu, ce sujet, et rester uniquement au niveau des cimes éthérées, comme ça, dans l'élitisme. Mmh. Il faut aller se coltiner le travail sur le terrain. Mmh.
Vous avez raison, c'est vrai, c'est très. Je partage complètement ce que vous venez de nous dire, Monsieur Khaled Benchir. Monsieur le Président, tout de même, l'objectif pour votre programme dans la Fondation Islam de France, c'est quoi? C'est d'alerter les jeunes, c'est de toucher les jeunes, c'est de justement d'attirer leur attention ou de les sensibiliser sur les fake news, sur tous ces sujets qui peuvent aujourd'hui, évidemment, qui nous concernent. Vous l'avez dit, qui concernent notre quotidien, y compris nous. C'est quoi au juste l'objectif?
Alors, il se trouve que les réseaux sociaux sont devenus le magma de tous les défouloirs de haine, de mensonges, de contre-vérités, et surtout, en ce qui nous concerne, nous autres citoyens musulmans, aussi un lieu de propagande d'une théologie sclérosée, d'une vision du monde totalement inadaptée, de faux hadiths fabriqués et de certains imams autoproclamés, pas tous, et qui disent des contre-vérités en réalité. Et nous nous sommes dit qu'il n'y a pas meilleur que des jeunes gens qui répondent à d'autres jeunes gens. Sauf que avec lesquels nous travaillons sont éduqués, encadrés et aidés par un collège d'experts, par des théologiens, par des imams bien formés, par des sociologues, par des psychologues. Donc le collège des experts en aide avec ces jeunes gens, ce sont eux, je parle des jeunes gens, qui répondent à d'autres jeunes gens et qui déconstruisent ce qui se dit sur ces réseaux sociaux avec une approche aussi créative des choses.
Ça sous-entend que quoi, vous allez mettre en place tout un dispositif justement pour sensibiliser justement cette jeune. Le projet s'intitule Jeune France, hein.
Oui, Jeune France, parce que d'abord nous sommes la France et deuxièmement cette jeunesse est la France elle-même. Nous en avons marre d'une France excluante, exclusive et qui ne reconnaît pas la totalité de ses enfants. Eh bien, cette frange de la nation, qui se trouve être la jeunesse musulmane, et pas uniquement, mais en premier plan la jeunesse musulmane, se prend en charge et répond à ce que vous avez dit vous-même, des fake news, aux mensonges, à la haine, à la détestation, et par des arguments bien formés, bien forgés, étayés, encore une fois, par des experts, mais qui sont représentés dans leur propre langage et avec leur propre vision du monde.
Dites-moi, aujourd'hui, vous avez décidé de mettre ce programme justement en place et j'ai bien vu que vous proposiez des formations éducatives et citoyennes justement à ces nouveaux médias. Ça se traduit comment, Monsieur le Président?
Alors, cela se traduit dans le sillage de ce que nous faisions avec l'université populaire itinérante, avec notre campus numérique, avec la formation des ministres du culte, aumôniers, prédicateurs, imams, etc., pour la partie civique, civile, laïque, des choses qui viennent compléter la formation proprement confessante, confessionnelle et théologique, eh bien, nous attendons des moyens, notamment financiers, pour cela, pour créer des lieux, des rencontres où et surtout à Paris, en province, pour que des espaces, des ateliers de jeunes gens et avec ces experts viennent les former, leur prodiguer le savoir, l'intelligence, ils l'ont, mais la manière de réagir pour ne pas tomber dans le piège des mensonges et d'un discours de haine et de violence.
De haine et de violence. Ce programme, ça se passe à la Fondation Islam de France, j'imagine. Si on est intéressé, celles et ceux qui nous écoutent justement et qui ont envie de participer à cette sensibilisation, à ces actions Jeune France, pour mieux comprendre justement, pour mieux appréhender les mécanismes de viralité et de contenu, comment ça se passe d'ailleurs, Monsieur Khaled Benchir?
Alors, ils n'ont qu'à appeler ou écrire, mais qu'ils appellent, qu'ils viennent aussi nous voir, ils sont les bienvenus. L'adresse se trouve sur Internet, l'adresse email contact@lafif.fr. Donc tout est à la disposition de cette jeunesse Et encore une fois, elle est la bienvenue et nous l'accueillerons avec grand plaisir.
Quel mot vous dites aux parents, notamment qui nous écoutent, qui sont nombreux d'ailleurs ce soir, Monsieur Khaled Bencher, Monsieur le Président, qui, vous savez, ne savent pas d'ailleurs comment se comporter vis-à-vis de leurs enfants avec cet outil numérique, cet outil qu'est le portable, qui est devenu aujourd'hui un objet, évidemment, qui nous habite dans notre quotidien du matin au soir. Est-ce qu'on peut être inquiet, notamment, et quel comportement, quelle attitude avoir avec ces enfants? Parfois, vous savez, j'ai des parents, moi, qui, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on fasse l'interview ensemble, qui me disent, parfois, on est dépourvu de moyens.
Oui, il y a deux choses, mon cher Adil. La première, c'est que le maître mot est l'éducation. Et il ne faut pas que les parents, pères et mères, abdiquent et démissionnent au niveau de leur éducation et donc la vigilance de voir leurs enfants avec un outil. Et cet outil est neutre. Le portable peut sauver des vies, comme il peut être aussi un moyen de harcèlement sur les réseaux sociaux et qui finissent par des tragédies. Et donc, c'est pour ça que nous nous sommes dit, eh bien, nous épousons les exigences de notre temps. Cette révolution numérique, nous devons l'accompagner et faire d'un outil neutre un outil plutôt de sensibilisation et de préparation du futur citoyen. Et dans ce cas, ce qui se dit dans cette jungle, ce qui se fait à la fois de mensonges et de contre-vérités, doit être pourfendu par des réponses étayées, logiques, sincères et véridiques. Et dans ce cas, que ces parents aussi qui s'inquiètent viennent nous voir.
Merci en tout cas infiniment, mon cher président, monsieur Khaled Bencher, le président de la Fondation Islam de France. Je sais que, notamment, votre actualité en ce moment est extrêmement dense et riche à la fois. Donc, j'invite tous nos auditeurs, évidemment. Quels sont les rendez-vous à ne pas manquer du moment?
Alors, il y en a un, et vous êtes cordialement convié vous-même, mon cher Adil, et à travers vous, l'ensemble des auditeurs. C'est un grand colloque au Collège des Bernardins, le 28 février. Mardi 28 février à 18h précise, sur la liberté de conscience et l'islam.
Ça, c'est excellent. Ça,
donc,
c'est un vrai sujet, ça.
C'est crucial parce que, je vais vous le dire...
on est en plein dedans, monsieur le président. Hein. Là, la liberté de conscience, on le vit dans notre quotidien, justement, pour le coup. Hein.
Eh bien, justement, le lien entre la liberté de conscience et l'islam, nous voulons aborder ce sujet d'une manière à la fois sereine et déterminée. Et donc, le 28 février, qui est un mardi, à 18h précise, au Collège des Bernardins, il y aura ce grand colloque auquel vous êtes cordialement conviés.
Ah ben, c'est intéressant. Ça m'intéresse. Non, mais c'est vrai. Parce que cette question-là sur la liberté de conscience, d'ailleurs, on a presque envie de vous dire, elle commence où, elle finit où? C'est vrai.
Eh bien, c'est le lieu d'en parler, ce jour-là, et le moment, mais je répondrai volontiers dans un autre contexte à vos questions sur ce sujet.
Eh bien, vous voyez, le rendez-vous est donné. À ne pas manquer ce grand rendez-vous, justement, merci infiniment, et on viendra évidemment nombreux, j'invite tous nos éditeurs à venir nombreux, capter cette conférence exceptionnelle concernant donc cette thématique qui nous est chère et qui, évidemment, habite notre quotidien. Merci, monsieur le président. Monsieur Khaled Bencher. À très bientôt. Et à très vite. La Fondation donc de l'Islam de France, même allez-y. Hein. Allez voir d'ailleurs son site internet qui est bien fourni. 18h13, on marque une pause et on se retrouve tout de suite après avec Pascal Boniface et on lancera le sujet, donc justement concernant la mort de Siam.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h20, on va se retrouver dans une poignée de secondes, dans une poignée de minutes, autour de notre thématique au 01-53-48-3000, mais pour l'heure, vous savez, exceptionnellement, à 18h20, c'est le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les Informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est avec le patron fondateur, vous savez, de l'Institut Léris. Bonsoir, bonjour, mon cher Pascal Boniface. Vous êtes là? Vous êtes là, ça y est, on vous a retrouvé.
Oui.
Bon, comment allez-vous, mon cher Pascal Boniface?
Bah, écoutez, très bien, même si l'actualité internationale est plutôt, n'est pas très joyeuse.
Eh bien, parlons-en justement. Vous avez décidé de revenir sur le conflit israélo-palestinien.
Oui, j'en ai parlé la semaine dernière, vendredi, en disant qu'il ne fallait pas croire que la paix était revenue et que le degré de violence allait certainement déboucher sur d'autres violences. Et malheureusement, c'est survenu, deux attentats et puis l'engrenage de la violence Alors, ces attentats, bien sûr, visent des gens qui sont innocents. C'est pas par les attentats que les Palestiniens pourront faire avancer le dossier de la paix et le dossier de la création d'un État palestinien. Mais c'est en même temps le fruit du désespoir, de l'absence de perspective, puisque les deux individus qui ont commis ces attentats n'en sont liés à aucune organisation militante, ni même organisation armée. Il y en a un qui n'a que 13 ans, et donc on voit bien le blocage de la situation. Israël a répondu en disant qu'ils allaient plutôt laisser les colons s'armer un peu plus, détruire la maison des familles de ceux qui ont commis les attentats, mais ça ne résout rien. Et tant qu'il n'y aura pas une paix véritable dans laquelle les Palestiniens auront leur État et leur dignité, et simplement faire respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça n'avancera pas. Mais alors surtout, c'est dans un contexte plus large, parce que les Occidentaux, finalement, sont pris à leur propre piège. Anthony Blinken est venu en Israël, il est aussi allé voir les Palestiniens à Ramallah, en disant qu'il fallait raison garder, que les choses ne s'emballent pas, ce sont des paroles creuses, parce qu'on habille le vide avec cela. Et puis, surtout, c'est que du côté occidental, l'écart est de plus en plus visible entre la volonté de respecter très strictement le droit international lorsque la Russie agresse l'Ukraine et occupe de façon illégale des territoires qui ne lui appartiennent pas, et le fait que lorsque ça se passe au Proche-Orient, et surtout lorsque c'est Israël qui occupe des territoires qui ne lui appartiennent pas, eh bien, on appelle à la modération, on appelle à la retenue, on les demande de faire un effort, et on appelle toujours cette solution des deux États auquel plus personne n'y croit. Tout le monde l'invoque, mais plus personne n'y croit parce qu'elle n'est simplement plus réalisable. Et tant qu'on maintient un peu cette fiction, les choses n'avancent pas. Et en fait, aujourd'hui, avancer la solution des deux États, c'est simplement accepter le statu quo et accepter une dégradation. Je ne dirais pas qu'on est au bord du gouffre, mais disons que l'humiliation d'un peuple n'a jamais produit la paix, et que malheureusement, ce nouveau gouvernement israélien, beaucoup plus à droite que les précédents, eh bien, pense qu'il peut imposer son ordre par la force. Cela n'arrive pas non plus dans l'histoire.
Eh bien, merci infiniment, mon cher Pascal Boniface. On, évidemment, on vous retrouve. D'ailleurs, rappelez-nous les chaînes, votre chaîne YouTube, qui explose en audience, d'ailleurs. Je dois le reconnaître, là. Vous faites des succès d'audience incroyables.
Écoutez, bravo. Paye. 238 000 abonnés, effectivement.
Mais c'est excellent, là. Là, vous êtes une vraie force de frappe, là. Avec 238 000, on pèse, comme on dit, dans le jargon.
Il y a des médias qui m'interdisent. Heureusement, BRFM, lui, m'accorde la parole. Je le remercie, d'ailleurs. Mais faites comme certains médias m'interdisent. J'ai créé ma propre chaîne pour passer outre cette interdiction.
Rappelons aussi les ouvrages, le dernier en date, notamment.
Alors, 50 idées reçues sur l'état du monde. Moi, j'aime bien, effectivement, démonter les idées reçues. Et puis, la BD géostratégique, que vous avez eu la gentillesse de citer déjà, qui est en fait l'histoire du monde en BD. Et c'est illustré par Tommy, un jeune illustrateur très talentueux, qui a ajouté beaucoup d'humour à mon texte. Et vraiment, ça se lit très facilement. Et c'est très accessible, notamment pour les lycéens et les jeunes.
Voilà, absolument. Et j'invite tous nos auditeurs à aller se le procurer. Je le redis et re-redis, parce qu'effectivement, on apprend pas mal de choses et on découvre aussi pas mal de choses aussi. À la semaine prochaine, mon cher Pascal Boniface.
Avec grand plaisir, Adil.
Partagez. Et je vous laisse aller vaquer, parce que je sais que vous êtes attendu aussi dans d'autres médias. Donc allez-y. Je vous souhaite une très très belle soirée, mon cher Pascal Boniface.
Merci beaucoup.
Merci à vous. 01 53 48 3000. Vous savez quoi? Les auditeurs ont la parole tout de suite.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
On parle de la disparition de Siam, la mort de Siam. Terrible, franchement, terrible, terrible mort. Meurtre de Siam dans le Gard. Évidemment, ce qu'on en sait, jeune femme de 18 ans, c'est terrible, qui a été retrouvée donc cette nuit. Cette jeune femme donc morte dans une forêt dans le Gard. La lycéenne n'avait plus donné signe de vie depuis mercredi dernier. Le principal suspect est passé, vous savez quoi, aux aveux. Il est passé aux aveux il y a quelques jours à peine. Justement là, dans la nuit, devant mercredi à ce jeudi, évoquant une dispute qui aurait mal tourné. Mal tourné, vous rendez compte aujourd'hui dans quel monde vivons-nous quand même. Et le corps, il est retrouvé sans vie, justement dans une forêt dans le Gard, dans la commune des Salles du Gardon, dans la nuit donc de mercredi à jeudi. Je voudrais qu'on en parle parce que le sujet, il est tellement, moi il m'a touché. Et évidemment, je voudrais vous entendre au 01 53 48 3000, nous appeler tous, partout en France. Tous justement venir nous dire, est-ce qu'à un moment dans votre vie, vous avez senti quelqu'un, vous avez suspecté quelqu'un qui vous suivait en permanence, qui vous cherchait, qui cherchait des choses. Bref, je voudrais qu'on en parle au 0153 48 3000. Lorsque, évidemment, ça vous arrive, comment, quelle attitude adoptez-vous et quel comportement adoptez-vous? Est-ce que vous avez le réflexe d'appeler tout de suite ce qu'on appelle la police nationale? Est-ce que vous avez le réflexe de les appeler? Ou est-ce que vous faites un peu justice vous-même? C'est-à-dire que vous allez au front, frontalement, évidemment, aller chercher, provoquer, justement, la personne. 01 53 48 3000, je vous attends.
01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
Et on vous attend tout de suite là maintenant. Anthony vous attend, il vous attend là maintenant. Il vous attend tout de suite au standard. J'aime bien la main. Il dégaine. Voilà, ça commence. Allez, allons-y. 01 53 48 3000, chers amis auditeurs. On ne bouge pas, vous le savez, nous, vous nous connaissez, hein. On ne lâche rien, nous, ici, hein. Nous, on lâche rien. On bouge pas. On fait pas de pause. On vous attend. Tant qu'il n'y a pas d'appel, on ne bouge pas. Ça veut dire que moi, je ne bouge pas. Voilà. C'est un sujet, quand même, qui nous concerne. Tous. On a tous eu affaire à, comment dirais-je, des individus qui étaient suspects. Suspects, évidemment. Qui vous suivaient ou qui vous traçaient ou qui, vous êtes en voiture, vous avez repéré un individu qui, pareil, vous suivait pour voir vous habitiez, où vous alliez travailler, etc. Comment, justement, se comporter? Comment vous vous comportez? Quelle attitude vous avez justement? Est-ce que vous vous inquiétez? Est-ce que vous vous mettez en alerte? Est-ce que tout d'un coup vous vous repliez sur vous-même, vous dites oh là là, je sais pas, que sais-je? Ou est-ce que vous prenez la fuite et vous changez de direction pour essayer de voir si la personne vous suit toujours? Je veux qu'on en parle parce que vraiment c'est un sujet très 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 important. Fatima du 75. Bonsoir Fatima.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, vous allez bien?
Alhamdoulilah,
bah, très bien, très bien. Moi, j'ai été touché par la mort de Sia, vous voyez. Cette jeune femme, franchement.
Tout le monde est touché, mais que ça soit Sia ou que ça soit les autres.
Ou que ça soit les autres, oui. Mais ça, c'est un sujet d'actualité, c'est pour ça que j'en parle.
Ah oui, avec les médias. Donc, on est, même sans le vouloir, on est touché. Mais moi, bon, ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il y a un problème de fréquentation.
Vous pensez?
Les gens fréquentent n'importe qui. Parce que d'après les médias, d'après les médias, ce jeune homme
de 39 ans
qui est présumé, voilà, de 39 ans, présumé innocent, il a, enfin, je sais pas, 39 condamnations.
On a, je parle, je dis un homme de 39 ans parce que c'est, il a été condamné à plusieurs reprises, etc. Maintenant, voilà. c'est l'enquête est en cours.
Oui, voilà. Donc, moi, je dis que c'est le mari à sa cousine. Elle connaît moi, j'irais même pas lui garder ses enfants à quelqu'un comme ça. Donc, moi, je pense que c'est un problème de fréquence. À 18 ans, on est encore gosse.
Oui, 18 ans, on est adolescent encore.
Voilà, on est encore gosse.
Qui est majeur, mais quand même.
Moi, j'ai autour de moi des jeunes filles de 18 ans. Eh bien, vous pouvez pas les lâcher dans la nature. Elles sont encore immatures.
C'est un drame terrible. Franchement, je vous le dis, c'est une colère.
Je vais vous dire une chose,
sans...
Adil.
Oui.
De nos jours, par exemple, quand vous êtes dans les commerces ou dans les centres commerciaux ou quelque chose, même monter avec un inconnu dans un ascenseur. Moi, une fois, quelqu'un, c'était un monsieur africain. Donc, moi, j'attendais l'ascenseur et lui, il est venu à côté de moi pour prendre l'ascenseur. Donc, il est rentré, il me dit, j'attends. Il me dit, vous êtes raciste. Je dis, je peux pas être raciste, je suis africaine. Eh ben, je ne monte pas avec un inconnu. Pourtant, je suis
arrivée. Oui, je comprends.
Vous l'avez pas senti.
C'était ma question, justement. Quand vous avez, quand vous captez des éléments comme ça, comment vous réagissez? Donc, vous êtes sorti.
Non, je suis pas rentrée du tout.
Vous n'êtes pas rentrée tout court. Ah oui, d'accord.
Justement, il m'a traité de raciste. Comme il m'a vu avec mon chapeau et tout, il croyait que j'étais, enfin, gauloise, il me dit, madame, vous voulez pas monter parce que vous êtes raciste. J'ai dit, non, monsieur, excusez-moi, mais je ne monte jamais avec un inconnu dans un ascenseur.
Vous l'avez dit ça? Voilà. Vous l'avez pas senti, c'est ça? Vous l'avez pas senti?
Non. Mais je
mais vous avez raison. Moi, je pense, lorsqu'on ne sent pas les éléments, il faut pas y aller. Voilà.
Exactement. Je vais vous dire une chose. Moi, il fut un temps où à Paris, on sortait, bon, dans ma jeunesse, on sortait en groupe, à 3h, 2h du matin. Je pouvais revenir seule maintenant, même à 8 heures. Vous ne pouvez pas maintenant marcher. Vous êtes en train de regarder sur tous les côtés. Il y a une insécurité. Et maintenant, quand elle vient des proches, ben c'est encore plus grave. Vous voyez,
oui.
Il faut maintenant, il faut être mobilisé pour dire aux enfants, aux jeunes filles, faites attention, ce n'est plus le temps d'avant. Le temps de l'insouciance, c'est fini. D'ailleurs, oui. Que ce soit à Paris ou ailleurs. Donc, moi, je pense qu'il faut tout le temps répéter. Moi, c'est ce que je fais. Répéter. Voilà, c'est ça.
Vous avez raison.
Sa mère qui était dévastée l'autre jour.
Colère. Mais vous avez raison, je suis complètement d'accord. Exactement.
Au revoir.
Merci, je vous embrasse, ma chère Fatima. Merci pour vos fidélités.
Merci.
Tiens, il y a Lia qui nous appelle de l'Isère, c'est ça? Oui. Lia, bonsoir Lia.
Bonsoir.
Vous nous appelez d'où en Isère?
De la Drôme, de Romans-sur-Isère.
Ah, bienvenue. Nous vous écoutons alors. Vous avez entendu?
Oui. Moi, déjà, je tiens à dire que je suis vraiment très, très peinée de la disparition de Siem. C'était, je souhaite beaucoup de courage à ses parents, Rabbi Alhamra. Mmh. Moi, je voulais témoigner sur quelque chose qui m'est arrivé dernièrement.
Oui.
Je suis secrétaire médicale, donc j'ai pris une activité complémentaire. Je ne suis pas à temps plein. Donc, j'ai pris une activité complémentaire chez un monsieur donc, pour comme aide à domicile. J'ai subi un harcèlement de ce monsieur.
Harcèlement comment?
Relation avec lui, donc intime, il m'a fait des avances. Il m'a fait des avances que j'ai refusées. Il m'a invité chez lui le soir, j'ai refusé. Je lui ai écrit noir sur blanc que je voulais que ça reste professionnel. Donc il n'a pas accepté que je dise non à toutes ces avances. Et il se trouve que il a continué à harceler, et puis un jour donc chez lui je suis tombée sur des papiers, plein de petits, une sorte de petites notes blanches où il notait plein de choses sur moi, c'est-à-dire plein de renseignements sur moi, où est-ce que je faisais mes courses, mes habitudes de sortie, enfin plein de détails qui m'ont vraiment alarmée. Donc j'ai porté plainte pour harcèlement au commissariat. De A à Z, bien spécifié que j'avais des preuves comme quoi je refusais ces avances et que j'avais trouvé ces éléments, malheureusement, pour la loi française, ne sont pas utilisables. C'est-à-dire qu'un individu peut vous surveiller, peut vous espionner, tout savoir sur vous, vous ne pouvez pas l'utiliser.
Mais c'est ça, c'est terrible, vous savez quoi, c'est exactement ça. Oui.
Voilà, donc.
Et vous le savez même pas en plus.
Pardon?
Vous le savez pas, vous en apercevez. Parfois, c'est un peu trop tard.
Lui. Donc ça, malheureusement, pour la justice, on ne peut pas l'utiliser. Donc il avait des tas d'informations sur moi, mon compte Facebook, plein de choses. Et le magistrat l'a classé sans suite, ma plainte. Donc ce monsieur peut se permettre d'autres choses, c'est-à-dire que demain, moi j'ai plus de 50 ans, mais demain il peut recruter une petite jeune, une étudiante qui veut se faire de l'argent pour payer ses études ou se faire plaisir, son argent de poche. Ce monsieur je ne sais pas, mais il peut être amené peut-être, je ne sais pas du tout comment il est dans sa tête, à commettre l'irréparable.
Ouais.
Voilà. Donc, on ne lui dit rien. Voilà, c'est classé sans suite parce que...
Et comment aujourd'hui, vous le, évidemment, avec le recul que vous avez, comment vous le vivez depuis?
Je suis en colère contre la justice.
Vous êtes en colère contre la justice? Est-ce que vous êtes devenue méfiante?
Méfiante, j'ai toujours été. Je fais toujours très attention. Mais ce qui m'inquiète, c'est les petites. Malheureusement, comme la pauvre Siam qui est tombée sur un individu dont elle était proche, elle gardait l'enfant. Vous vous rendez compte que normalement.
Non, mais ça, c'est terrible, ça. C'est encore plus terrible.
Elle était dans une relation de confiance.
Bon, Lia, je dois lancer la pub, Lia. Merci infiniment pour votre témoignage. Et j'ai envie de vous dire, ne lâchez rien. Après, je vais accueillir Abba de Paris. Abba, reste avec nous, Abba. On marque une pause, une courte pause pub. Et on se retrouve tout de suite après 01 53 48 3000. À tout de suite.
Beurre FM, 18h, 19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan. Beurre FM, 18h, 19h30. Et les informés, présentés par Adil Farkan.
18h41, et vous savez quoi, je continue de prendre les auditeurs au 01 53 48 3000 avant de retrouver le fameux face-à-face. Jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
J'avais dit à Abba que j'allais revenir de Paris. Ensuite, c'est Fatia de Paris, des Parisiens ce soir. Abba, bonsoir Abba.
Bonsoir Adil, comment tu vas?
Oh là là, mais je vais très bien. Ça faisait un moment d'ailleurs. J'ai droit à une clochette là-bas.
T'inquiète pas, je t'écoute tous les soirs.
Oh là 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 là, ça va, c'est bien. J'espère au moins que ça vous séduit, ça vous plaît quand même. Hein.
Bah, j'aime bien parce que tu prends toujours les sujets à cœur et
elle me tutoie maintenant, j'aime bien. On se connaît depuis très longtemps.
Oui, on se connaît depuis très longtemps.
J'aime bien, j'ai ces gens.
Et tu prends les sujets à cœur et en fait, tu donnes la parole à tout le monde. Donc, est formidable dans ton programme.
Eh bien, merci pour votre fidélité. Ça fait plaisir. Bah, c'est vrai, vous êtes très nombreux de plus en plus, évidemment, à nous suivre. C'est vrai,
j'ai des échos. On fait du bouche à oreille, t'as tout le monde. Ouais,
j'ai vu, il faut continuer à faire du bouche à oreille. Il faut le transmettre. c'est la fameuse chaîne, hein. Il faut continuer, justement. Il faut que cette émission devienne une émission de référence. On vous écoute.
Une émission de référence. Bah, écoute, avant tout, Adine, triste nouvelle, on va dire ça comme ça, et puis on souhaite les condoléances à la famille.
Oui.
Bien évidemment, malheureusement, c'est des choses que l'on vit nous dans notre communauté et de beaucoup. Mmh. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup non plus parce que la honte du voisin, la honte, tu vas dire quoi ?
Sujet tabou, vous avez dit dans notre communauté.
Et oui, bien sûr, c'est un sujet tabou. Il y a beaucoup d'inceste, il y a beaucoup de choses comme ça.
Vous avez raison.
Et on n'en parle pas parce que.
Vous savez quoi ? J'avais parlé de la violence conjugale. Le nombre de femmes que j'ai eues à l'antenne qui m'ont sombré dans leur, justement, dans leur passé,
c'était
bouleversant.
Mais c'est comme moi je dis, moi j'aide des femmes qui ne parlent pas français malheureusement et qui sont de notre communauté et qui ne parlent pas un mot de français et qui viennent en France, qui se marient en pensant que c'est l'Eldorado, mais qu'ils arrivent ici en fin de compte, c'est
plein,
la misère, encore plus que la misère.
Elles sont nombreuses.
Exactement. Et on essaye d'être un peu leur lumière, on essaye d'un peu les guider, les aider comme on peut. Bien sûr, de plus en plus en France, ils instaurent des choses pour ces femmes-là et c'est très bien. Hein. La police prend maintenant en compte les plaintes. Mais c'est pas assez, Adil. Mmh. C'est pas assez quand on sait qu'une petite fille de 18 ans qui a encore l'avenir devant elle, qui meurt à cause d'un beau-frère qui est marié avec la cousine, parce que je pense, mon avis personnel, elle a dû refuser ses avances et voilà le résultat. Mmh. Et derrière, il assume en disant « j'avais une relation avec une gamine de 18 ans ». Déjà, honte à toi d'avoir une relation avec une gamine de 18 ans et en plus la cousine de ta femme.
Ouais.
Donc, est-ce qu'il faut y croire ? Non, honnêtement, j'y crois pas un mot.
Ouais.
Et j'invite tout le monde à pas y croire, c'est sa défense à lui personnelle. Pour pouvoir se tirer des griffes, de la justice française. Mais c'est triste parce qu'on dit encore une fois, quelqu'un de chez nous, quoi.
Ada, on parle quand même de 13 condamnations au total. On dit quoi ?
Oui.
Dangerosité, criminologie, avérée en plus. On peut le dire, un passé extrêmement lourd, judiciaire du suspect. Il vient pas, attention, hein, il revient pas simplement de façon classique, traditionnelle, comme quelqu'un de normal. Il a quand même 13 condamnations très lourdes.
C'est un délinquant, bien sûr, c'est un délinquant du système. Mais, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'il a voulu profiter de cette fille. Elle ne s'est pas laissée faire. Voilà. Parce que, d'après les gens qui sont proches de l'enquête, parce que j'ai vraiment suivi l'affaire de près, j'ai lu vraiment pratiquement tous les journaux, etc.
Pourquoi ça vous a intéressé à ce point-là?
Parce que déjà, ça m'a touchée en tant que femme. Mmh. Et de plus, ça m'a touchée parce que c'est un enfant pour moi. 18 ans, c'est encore tout petit.
Raison,
c'est l'âge de ma fille.
Vous avez raison.
C'est un bébé. Je me dis que ça n'arrive pas qu'aux autres, Adil.
Oui,
c'est ça, le
oui. C'est
voilà,
donc, vous avez raison de le dire. Vous avez raison d'attirer notre attention sur ce sujet.
Bien
parce
sûr,
que
ça n'arrive
souvent,
pas
on dit,
qu'aux
non,
autres,
mais ça arrive qu'aux autres, etc. Non.
Faut faire... Moi, par exemple, je ne suis pas pour, quand je vois ma nièce, des fois, un exemple, hein, une nièce, une fille s'asseoir à côté d'un cousin éloigné. Par exemple, moi, tout de suite, je me mets en garde. Hop, tu viens par là.
Attention à ne pas sombrer dans la paranoïa non plus, Ada.
Attention,
non mais chérie. Alors attention, moi je suis, c'est mon rôle aussi de journaliste. Hein. Il y a cette nuance, hein, à prendre avec beaucoup de pincettes entre évidemment avoir de la méfiance à l'égard de quelqu'un, d'une personne, d'un individu, d'autrui, et surtout sombrer dans la paranoïa, parce que là, ça devient une maladie.
Non, c'est
ça
pas
devient maladie.
Mais de nos jours, on a même plus confiance à notre père. Mmh. C'est malheureux, mais à chaque fois quand je le répète.
Mais ne sombrez pas dans la paranoïa. Ne sombrez pas dans la paranoïa, parce que là, attention, vous glissez sur le terrain justement qui risque de vous ronger et ça devient maladif.
Oui, mais bon, moi, je préfère protéger mon enfant, protéger mes filles, parce que voilà, une fille.
Vous avez entendu Khaled Bencher tout à l'heure, le président de la Fondation Islam de France.
Je suis arrivée par la suite, juste après.
Il est intervenu à 18h. On a parlé de la cyberinfluence, de toutes les fake news, de tous nos gamins qui sont heurtés justement avec leur portable, à tous ces sujets de notre quotidien. Il l'a excellemment bien expliqué, évidemment, la chose. Vraiment. Mm-hmm. Et réécoutez, je vous invite à réécouter le podcast.
Oui, vous je vais réécouter, mais du coup, voilà, Adil, donc c'est malheureux, on en arrive à avoir de la méfiance envers tout le monde. Tout le monde et tout le monde de proche aussi. Et c'est malheureux parce que vraiment, je commence à me dire, on vit dans un monde de fous.
Bah, en tout cas, je vous dirais, effectivement, il y a cette violence qui occupe le terrain dans notre société. Ça,
j'allais dire, en parlant de violence, justement, d'après les sources de la famille, j'ai lu ça sur un des journaux, je crois que c'était Figaro, ils ont retrouvé, c'était ce matin à midi, ils faisaient la déclaration, ils l'ont retrouvé avec beaucoup de coups et blessures. Elle a été défigurée.
Oui, c'est ça.
Donc,
c'est ça,
ouais. Mais quelle violence. Enfin, j'imagine même pas sa maman, j'imagine même pas sa famille, ses proches, ses amis.
Vous avez fait mon job, vous avez été enquêté vous aussi.
Ah oui,
ce qu'on appelle rechercher les informations, à la recherche d'informations effectivement.
Oui, pourquoi? Parce que tu t'essayes de comprendre, parce que t'as tes enfants aussi.
Bah, on a affaire à un mec qui est visiblement voilà.
On a affaire à un diable en personne et qui s'est pris à un ange. Bon. Et j'espère qu'il va pourrir dans son trou et qu'il aura la perpétuité, qu'il sortira pas un nez dehors. Ouais. Parce que ce genre d'individu,
vous savez,
c'est des dangers de la société.
Je vais vous dire quelque chose. Ceux qui nous écoutent, et d'ailleurs, je voudrais aussi dire vraiment un hommage particulier à celles et ceux qui nous écoutent depuis leur cellule. Parce qu'ils sont, je vous imaginais même pas à quel point ils sont nombreux. Ils vont s'occuper de lui.
Ah, Inch'Allah, binillah. Je le dis du fond du cœur. Non, mais vraiment. Hein.
Je vous dis ça. Non, mais attendez, je vous dis ça. Moi, je dis pas Inch'Allah. Moi, vous savez quoi? Il faut pas se faire justice soi-même. Mais en général, on s'occupe de quelqu'un qui. Après, on n'est pas là pour. Évidemment. J'aime bien comment il s'appelle. Ménad ou Chénia, il s'inquiète parce qu'il me regarde avec des grands yeux. Vous inquiétez pas, Ménad. On connaît le cadre.
Ouais, bien sûr, le système carcéral, c'est comme ça quand on fait du mal à un enfant.
Oui. Mais attention, cela dit, on ne prône pas la violence. Je le rappelle quand même.
Non, bien sûr, mais à un moment donné, ils méritent que ça, ces animaux. C'est un animal, ce mec. Même, j'ai du respect pour les animaux et pas pour ce genre d'individus. C'est des gens, honnêtement, c'est triste, mais ils méritent la mort. Des fois, je me demande pourquoi il n'y a pas la peine de mort en France pour ce genre de personnage.
Bon, ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, la peine de mort.
Mais en tout cas, voilà,
les condoléances surtout à la famille et surtout, de grâce. De grâce. C'est ce que je veux vous dire aussi, surtout Ada, c'est qu'on ne fait pas justice soi-même. Ça, par contre, effectivement, parce que vous savez quoi? C'est évidemment la dérive, le début d'une grande dérive qui peut mal tourner. On ne peut pas faire justice soi-même. Je me rappelle, quand je dis oui, évidemment je dis ça avec beaucoup de légèreté, quand je dis oui, ceux qui sont nombreux à nous écouter dans leur cellule et qui viennent parfois, évidemment, vous avez dit, ils vont s'occuper de lui. Quand je dis ils vont s'occuper de lui, c'est que voilà, ils vont lui parler, ils vont lui dire que ce que tu as fait, évidemment, c'est gravissime. Mais surtout, ce que je tiens à dire, vous êtes nombreux à nous écouter, c'est que la justice soi-même, pas question. Ça, c'est complètement évidemment. On ne peut pas prôner ce genre de truc. Voilà.
Oui, mais des fois, la justice, elle est insuffisante en France, Adil.
C'est un autre débat. Mais on ne peut pas se régler, on ne peut pas régler nos comptes soi-même. Oui, c'est pas possible. Sinon, vous savez, ça s'appelle comment, Ada? Abba, pardon? Oui. Ça s'appelle l'anarchie.
Mais on parle d'un pays.
Et l'anarchie, c'est très dangereux.
Sur des droits. Mais j'ai l'impression que des fois, certains droits sont bâclés quand c'est certains individus. C'est dommage. Et c'est pour ça que j'invite vraiment l'opinion française.
Laissez la justice. Vous savez quoi? Ceux qui vont s'occuper de ce monsieur, c'est la justice qui fera son travail.
Les citoyennes françaises qui fassent bien leur travail et que ce mec-là, il prenne perpétuité et non 10 ans, 15 ans par crime passionnel. Parce que c'est ce qu'ils vont, sur quoi ils vont se baser. Malheureusement. C'est comme ça qu'ils vont tourner la chose. Son avocat, il a déjà tâté le terrain, il a déjà préparé son terrain.
Donc la justice, je suis d'accord avec vous, la justice doit faire son travail. Merci Abba.
Merci Adil, à bientôt, au revoir.
À bientôt, au plaisir. Ménad, il s'est inquiété. Ménad, ça va? Qu'est-ce que vous m'avez l'air inquiet? Qu'est-ce qui se passe, Abba, Ménad ou Chénir?
Non, effectivement, d'entendre une auditrice souhaiter, puisqu'elle parle avec son cœur.
Parce que j'ai fait référence aux prisons?
Oui, alors non, pas
faire référence en prison.
On salue naturellement les auditeurs. Et
ils sont nombreux, vous savez qu'ils sont nombreux.
C'est ce que
je reçois des messages, moi.
Ce que j'apprends, bah, écoutez, tant mieux.
À ma grande surprise, on aime bien l'émission Les Informés, on vous suit l'actualité.
Si ça peut permettre d'avoir un climat plus serein en milieu carcéral, pourquoi pas. Écoutez, je sais que l'administration pénitentiaire est preneuse de toute... initiative qui permet de calmer les détenus. Non, simplement, moi, vous...
Ah non, on prend pas la violence.
Je suis légitimiste, voilà, au-delà de pas prendre la violence. On n'est qu'au tout début. Vraiment, je ne veux pas rajouter ma couche à tout ça, parce que naturellement, elle nous a quittés trop tôt. Naturellement, ça n'aurait jamais dû arriver, mais laissons la justice faire. Et je pense que la sérénité...
Et c'est pas au milieu carcéral de faire, évidemment,
non,
de
régler
ça. Ni ailleurs, ni dans l'entourage, évidemment, de la famille de Siam. Laissez, de grâce, évidemment, la justice faire son travail.
En toute sérénité, c'est le meilleur moyen d'avoir une justice qui soit exercée au mieux, et surtout aussi vis-à-vis de la famille. C'est déjà assez dur pour eux. Ils n'ont pas besoin que chacun et chacune viennent suggérer des conséquences possibles. Il y a une justice encore qui fonctionne.
Je vais juste accueillir rapidement Fatia. Fatia, vous nous appelez de Paris rapidement, parce que c'est vrai qu'il y a nos débatteurs qui attendent. Bonsoir Fatia.
Bonsoir tout le monde.
Bienvenue.
J'ai pris la radio à 18h précise pour ne pas vous rater.
Oui.
J'ai venu l'émission. Ah oui, c'est fini.
Ah oui, c'est votre rendez-vous, vous. Hein.
Ah oui, jusqu'à 19h30.
C'est vrai, vous êtes resté pendant 1h30. Non, c'est rare. Hein.
Ah, je mets ma radio.
Oui, et vous l'écoutez, vous la mettez comme ça en ambiance.
Oui, dans l'ambiance, il faut que j'écoute l'émission.
Vous ne pouvez pas la rater.
Et si je la rate, eh ben je prends je la reprends à minuit le rediff.
Ah oui, si vous la ratez, vous allez la chercher à minuit dans la rediffusion.
Ah oui. Non,
mais c'est excellent. Franchement, non, mais c'est touchant, c'est touchant. Merci à vous. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir.
Alors,
Fatia.
Merci.
On vous applaudit. Merci.
Bien. Alors, en tout cas. J'ai allumé et vous avez parlé parce que Siam, moi j'étais à le temps en attendant, pourvu qu'on l'ait trouvé, pourvu, j'étais pas à la maison. Et là je vous entends parler de Siam, morte. J'en ai tremblé j'en ai tremblé. Siam, c'est la fille de tout le monde, ça peut être ma petite fille, ma petite fille elle a 15 ans, tout de suite on pense à ses petits enfants, aux enfants des voisins, aux enfants en général, voilà, des filles, voilà.
Et
donc, la famille, on leur souhaite bien sûr du courage.
Vous avez quelques secondes, Fatia, avant de lancer la pub.
Voilà, bien. Alors, donc je peux pas vous dire, moi je me méfie depuis que ma fille avait 6 ans. J'avais été en vacances avec elle uniquement. Station balnéaire, Sidi Ferruch à Alger.
Ah, vous savez quoi, on va pas bâcler les choses. Laissez-moi lancer la pub et je vous retrouve après. Ça vous va, Fatia? Je vous récupère.
Merci.
Je vous récupère dans quelques secondes. Ne bougez pas, surtout, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h56, si vous voulez nous retrouver, on va récupérer Fatia. Fatia qui nous a commencé à nous raconter justement qu'avec sa fille de 6 ans, lorsqu'elle partait en vacances, eh bien, il lui est arrivé de se retrouver seule. Et là, on a besoin de savoir la suite. C'est ce qu'on appelle le teaser.
Allô?
Oui, vous êtes en direct. Vous êtes là.
Oui. Alors, donc voilà, c'est-à-dire que quand vous avez parlé, donc je suis remontée loin parce que c'est depuis ce qui m'est arrivé que j'avais réalisé que même si c'était une époque où il y avait des touristes, station balnéaire, Sidi Ferruch, c'était connu, etc. Et il y avait énormément de touristes. Il y avait beaucoup il y avait des colonies de vacances, des enfants qui étaient partis de France là-bas, des petits, enfin c'était magnifique. Bon, il se trouve que étant divorcée, mon ex-mari avait, il l'a je pense jusqu'à actuellement, comment on appelle ça, un cabanon à Moretti. Vous connaissez Moretti? Moretti, on y entre presque avec un visa actuellement.
Oui.
Bon. Son père avait un truc là-bas, parce qu'il a une certaine notoriété, je ne sais pas quoi. Bon, c'est son problème. Et il n'a jamais, même étant divorcé, pensé à emmener sa fille, ne serait-ce qu'un jour. Et quand elle a eu 6 ans, ça lui faisait mal au cœur. De toute façon, il venait tous les 36 de 4 ans.
Oui.
Je sais pas. Bon. La fin des vacances de cette année-là, c'était pas mon père qui allait m'emmener en vacances tout de même. On partait avec des cousines, des cousins en famille, mais là, je voulais une petite semaine pour ma fille et la faire profiter. Bon. J'ai loué une extrémiste comme ça vers la fin des vacances avant la rentrée scolaire.
Oui.
J'ai loué une petite semaine à Sidi Ferruch. Bon. Et je lui ai emmené sa bicyclette, on avait tout notre petit truc. Alors, après la plage le matin, etc., etc., le soir après dîner, on allait se promener sur le port de Sidi Ferruche. Elle faisait donc des tours de vélo. Et moi, je m'asseyais. Derrière moi, il y avait les pêcheurs. Pour vous dire, les pêcheurs me cherchent le calme. Donc, derrière le calme, et puis devant, il y a des terrasses, les gens prennent des glaces, des boutiques et machin. Moi, j'étais là. Je supervisais ma fille. On mangeait des glaces. Puis après, on s'installait. Moi, je m'installais. Et elle faisait des tours de vélo. Puis un jour, je me suis levée. On est rentré dans une boutique. Vous savez, ils vendent des souvenirs, des tas de choses. Je regardais. Un des vendeurs, il m'avait fait une remarque qui m'a donné à réfléchir. Et depuis, c'est là que j'ai eu le réflexe de me dire, bon, dans ma famille, c'est normal que je sois divorcée, que ceci, que cela, que je prenne des initiatives. Mais c'est là que j'ai compris. C'est pas dans ma famille. Dans ma famille, tout est normal. Il y a des gens qui raisonnent avec leur tête. Que j'ai compris qu'une femme seule n'est jamais en sécurité seule. Voilà. Eh bien, ce vendeur, je sais pas ce que j'avais acheté, il m'a dit...
Faut aller vite, ma chère Fatima,
oui,
parce que
c'est,
on est pris par le temps.
Oui, je sais. Il m'a dit, c'est bizarre, mais on vous voit tout le temps, on vous a remarqué seul avec la petite. Pourtant, c'est divers, c'est énorme. Ça m'a fait tellement, ça m'a piqué.
Oui, c'est vrai que bon, normalement, on n'a pas à faire sur...
Franchement, ça m'a donné à réfléchir.
C'est vrai.
Voilà. Alors, je dis à ma fille, écoute, on prend la bicyclette et on rentre, on va dans la chambre, à l'hôtel. À l'hôtel, je vais louer. Comme ils ont vu que j'étais seule avec ma fille, ils m'ont dit, on vous met au dernier étage, là où il y a le personnel de l'hôtel, où vous serez en sécurité.
Voilà. Bizarre.
Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui rentraient dans les chambres, il y avait beaucoup de touristes, beaucoup. Bon. Alors, je suis montée avec ma fille, je lui tenais sa bicyclette, on montait les escaliers, le quatrième étage, je sais plus, en tout cas le dernier, c'était que le personnel. Donc, parmi le personnel, une chambre était la mienne, et peut-être d'autres chambres, j'en sais rien.
Oui.
On montait, ma fille et moi, et à un moment donné, je sentais une présence derrière nous. J'ai pas entendu de bruit. Quelque chose dans le dos. Je me retourne, il y avait un type, le regard. J'ai la chair de poule. Je sais pas comment j'ai été... je n'ai pas paniqué. On n'était pas encore arrivé au quatrième. On était au troisième. J'ai dit, s'il dépasse le troisième, ça veut dire qu'il nous suit. On a entamé les escaliers pour monter au quatrième et il était derrière nous. Et subitement, je ne sais pas, j'ai eu un réflexe. J'ai pris ma fille, je ne sais pas, je l'ai fait tomber. J'ai dégringolé les escaliers avec ma fille et je suis descendue. J'ai été en bas. J'ai attendu.
Fibre défense.
J'ai été à la réception, je vais pas dire. Je me suis installée au salon, je me suis assise et j'attendais. J'ai dit, s'il redescend, c'est que il voulait m'agresser, moi. Il est descendu, il est passé, il y avait beaucoup de monde. Il m'a regardé avec un regard de haine, de tout ce qu'on veut, qui brillait de méchanceté, et il est sorti. J'ai été à la réception, je leur ai expliqué, je leur ai dit, je ne retourne pas dans la chambre, je quitte l'hôtel, je rentre. Mais je ne retourne pas dans la chambre. Mais madame, on vous a mis là-bas parce que vous êtes en sécurité avec nous. Et ben voilà, ils viennent de passer.
Bon.
Ils m'ont changé de chambre, ils m'ont mis au rez-de-chaussée.
Effectivement. Donc j'ai bien compris qu'effectivement, Fatia, vous avez été pris de panique et que ça peut arriver. Effectivement, vous avez raison. Vous avez eu le bon réflexe, en tout cas, de vouloir interpeller à la fois l'accueil. C'est ça, l'accueil de l'hôtel ou la conciergerie ou. Mais vous avez raison. C'est le bon réflexe qu'il faut avoir. En tous les cas, faut pas vous laisser évidemment. Embrigadé ou submergé par les émotions, effectivement. Merci Fatia pour ce témoignage.
Pas de là devenir paranoïa comme la.
Oui, c'est vrai. Mais c'est ce que je disais.
Système, c'est pas bon pour elle.
Exactement. Ça vous rend malade, tout simplement. Fatia, prenez soin de vous surtout.
Merci beaucoup. Bon, on pense beaucoup aux parents de fille, mais sa famille, mon Dieu.
Allez. Merci à vous. Allez, 19h02, avec un peu beaucoup de retard. Le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Messieurs, bonjour Abdeslam Itaj, comment ça va?
Très bien Adil.
Bonsoir messieurs. Et bonsoir également à Menad Ouchenir, comment ça va?
Ça va très bien Adil et vous?
Menad Ouchenir, rappelons-le, ancien élu de Bobigny.
Rony Soubois.
Pourquoi je parle de Bobigny alors?
Mettez-moi
une clochette, vous avez raison. Oui, c'est ça,
on
est dans le bon secteur. Consultant numérique, Abdeslam Itaj, alors on peut dire quoi aujourd'hui? Vous avez changé de chapelle?
Déjà ancien élu également.
Ouais.
Et je suis à Europe Écologie des Verts.
Ouais. C'est bien, ça se passe bien?
Très bien.
Très bien. Messieurs, tout de suite, je vous laisse réagir simplement à la mort de Siam. Enfin, simplement, réaction. Évidemment, vous avez entendu nos auditeurs, Abdeslam Itach.
D'abord, très facile pour moi de me projeter dans tout ça. J'ai une fille de 19 ans qui va à la fac tous les matins. Et quand j'entends ce type de choses, ça m'affole, moi, en tant que père. Et je pense à toutes ces jeunes filles, futures femmes en devenir. Et la société aujourd'hui, elle est très dure et on entend bien. Un multirécidiviste, on voit bien qu'il n'y a pas de processus de réinsertion viable, ou en tout cas, on n'y travaille pas. Pour Darmanin et consorts, la priorité, c'est la répression et pas du tout la prévention. Et c'est bien ça le problème. Ensuite, je voulais juste répondre à une de vos auditrices qui parlait de crime passionnel. Alors, le crime passionnel n'existe plus aujourd'hui. La justice ne qualifie plus ce genre de crime.
C'est vrai.
Par crime passionnel, puisque là-dedans, il y a tout sauf de la passion. Il y a de la violence, il y a
Absolument.
Du meurtre, il y a du viol, mais pas de la passion. Voilà, c'était tout ce que j'avais à
dire. Ménadou Chénir.
Je disais tout à l'heure, je ne voulais pas forcément rajouter à ce qui est dit, à l'émotion, mais naturellement, cette jeune fille n'aurait jamais dû nous quitter. Et puis donc, l'auteur présumé des faits, hein, qui a avoué, mais qui n'est pas encore condamné, donc, lui, effectivement, est un multirécidiviste. Pour autant, je dirais, pour rebondir sur les propos d'Abdeslam, ne politisons pas ce dossier, comme ça a pu être fait dans d'autres crimes tout aussi horribles, que je ne vais pas rappeler les noms des pauvres victimes.
Oui, la série, évidemment.
Mais ne politisons pas les faits, n'allons pas instrumentaliser, je dis ça pour une certaine partie de la classe politique et médiatique, ce genre d'affaires, parce qu'aujourd'hui, ce à quoi il faut penser, c'est la famille. Laissons-les vivre leur deuil, laissons la justice faire son travail. C'est un magistrat qui voit son affaire tous les jours dans les médias. Je ne pense pas qu'il travaille mieux que quand on le laisse travailler en sérénité, un magistrat au tribunal. Donc voilà, laissons la justice faire son travail, laissons la famille vivre son deuil.
Et vous avez raison de le rappeler. Laissons la justice surtout faire son travail.
N'instrumentalisons pas.
Non, il n'est pas question d'instrumentaliser. Oui, effectivement,
comme on le dit. Certaines classes
Absolument.
Politiques.
Et pas de règlement de compte et pas de souci. Attention, pas de justice soi-même. Laissez la justice. Évidemment, résoudre tout cela, c'est à elle d'enquêter, c'est à elle de rechercher, c'est à elle de condamner, c'est à elle de... Voilà, c'est son travail. C'est pour ça d'ailleurs que, évidemment, on est là pour le rappeler. La réforme des retraites, la SNCF, déjà des syndicats divisés, je voudrais qu'on en parle parce que vous savez quoi, eh bien, il y a quand même des divisions au sein de certains syndicats, les principaux syndicats. Est-ce que ça commence à, évidemment, comment dirais-je, alors qu'on a annoncé le 7 et le 11 février prochain une grande mobilisation, est-ce qu'on peut considérer que les syndicats aujourd'hui, ça y est, sont divisés pour la suite du mouvement Abdeslam Itach.
Bon, d'abord, vous savez, l'intersyndicale a plusieurs courants de pensée, et fort heureusement, tous ne pensent pas la même chose ou tous ne pensent pas le processus de réalisation et de l'abandon de cette mesure de la même manière. Vous avez un courant un peu plus appuyé qu'est la CGT, qui veut clairement tout bloquer. Les autres syndicats un petit peu moins, qui souhaitent plutôt manifester, plutôt ne pas perturber les transports pendant les vacances. Le fait est que la finalité, c'est justement qu'on puisse stopper cette mesure qui est antisociale, et je pèse mes mots, et ensuite qu'il y ait discussion, il y a débat, c'est le propre de la démocratie, et que chaque syndicat puisse, lui, en fonction des revendications de leurs militants syndicaux, que chacun puisse dire ce qui est le plus à même de faire pour justement tordre le bras à Emmanuel Macron pour qu'il puisse revenir sur cette mesure.
Mais là, de chez les, effectivement, là, le fait que les syndicats se divisent, est-ce que ça annonce pas effectivement, est-ce que ça n'arrange pas aussi l'exécutif?
Est-ce que c'est une division vraiment, Adil?
En tout cas, la question se pose sur la mobilisation durant les vacances.
On reste d'accord sur l'essentiel, donc notamment l'abandon.
La question se pose sur la grève durant les vacances, vous le savez.
Après, sur l'intensité de la grève, effectivement, elle se divise. Mais
ce qui menace, là, sur la question de la grève.
On parle de l'intersyndicale, mais si on prend ne serait-ce que la CGT seule, vous avez la branche pétrole, la branche cheminot, qui sont déjà, par exemple, la branche de l'industrie pétrolière, elle est... connue pour être plus radicale que celle des cheminots ou des dockers, par exemple, qui sont aussi les autres branches fortes du syndicat. Donc, prenons pas ça comme un bloc monolithique, prenons-le, effectivement, j'ai envie de dire, branche par branche. ami canadien qui me disait un éléphant, ça se mange en tranches. Donc, ce serait un peu comme ça que je considérerais et j'aborderais la question de l'intersyndicale et de leur cohérence. Sur l'intensité de la grève, je comprends qu'il puisse y avoir une discussion parce que l'enjeu de cette grève, la dernière fois, j'avais adressé, moi, insatisfait site ou gréviste, c'est vous dire, dans le sens où ils avaient largement prévenu de la grève et la plupart des usagers et des gens ont pu prendre des dispositions pour limiter l'impact négatif sur leur vie, ce qui pour moi est un aspect essentiel. Parce qu'on peut faire grève, mais pénaliser trop les gens, pour moi, est aussi antisocial. Et surtout, même plus que blâmer des élus qui ont été démocratiquement élus. Pour moi, c'est pas une division. Ils sont pas d'accord sur le niveau d'intensité, mais ils vont faire grève. Et ça va pénaliser. Et ce qui se passe aussi en région, parce qu'il n'y a pas que Paris, hein, c'est qu'on voit des députés dans certaines circos qui étaient a priori très pour voter cette réforme, hein, que ce soit Renaissance ou LR, à ne pas oublier, qui maintenant commencent à se poser des questions, parce qu'il y a les enjeux locaux, parce qu'il y a des législatives dans quelques années certes, mais des législatives quand même. Puis au milieu, il y a des sénatoriales. Parce que, pas oublier également cette élection-là. Donc, je ne crois pas qu'il y ait division au sens strict. Je ne pense pas que le mouvement va faire pchit, en tout cas pas tout de suite. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se traduire dans les hémicycles, dans l'hémicycle.
Eh ben justement, parlons-en, parce qu'Emmanuel Macron, paraît-il, que lui, résiste malgré tout à cette mobilisation contre la réforme des retraites. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation, notamment, qui a connu une hausse hein, entre le 19 et mardi dernier, est-ce que ça peut faire bouger quelques lignes concernant cette réforme des retraites, notamment auprès de l'exécutif, mais surtout auprès du chef de l'État, Abdeslam Itach?
D'abord, il y a plusieurs députés qui sont prononcés. Et qui
vous savez quoi, c'est 63, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est quand même 63% des Français qui jugent qu'Emmanuel Macron n'est pas un bon président de la République. Concernant, évidemment, il s'est un peu manqué sur ce sujet.
Oui, non mais alors, concernant la majorité relative, vous avez déjà 6 députés de la République en Marche, je les appelle toujours la République en Marche.
Renaissance.
J'ai du mal avec la Renaissance, mais qui ne voteront pas le texte en l'état, le MoDem, 1 à 2 personnes, et Horizon, 6 personnes également. Donc, si le compte est bon, ça fait 14. Ça commence à craquer. Ce que je veux juste dire, c'est que Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à passer en force. D'abord, il faut expliquer les choses. Et que les citoyens puissent en décider ainsi, voir si la mesure peut acceptable ou non. En l'état actuel, c'est non. En l'état actuel, c'est non. Et vous le savez, je vais encore reprendre ces chiffres, mais 25% des personnes qui ont des travaux dits pénibles meurent avant leurs 62 ans. Donc, qu'en est-il des 64 ans? Donc, il faut juste arrêter. Et moi, j'avais eu cette discussion, mais j'en parlais encore la semaine dernière. Un ami qui me disait, mais moi, j'ai la santé. Et si je peux continuer après les 64 ans, jusqu'à 67 ans, je le ferai. Mais la retraite, c'est pas un mouroir. Et on ne va pas à la retraite une fois qu'on est cassé. Non, le but, c'est de profiter de sa retraite et pouvoir profiter de ses petits-enfants, pouvoir faire le tour du monde et réaliser des choses qu'on n'a pas pu faire lorsque l'on était en activité. Donc, il faut revoir le mode de vie et le regard que l'on porte sur cette retraite. Voilà, c'est... oui, pardon.
Non, allez-y, finissez votre phrase. Hein. Je faisais signe à Ménad Ouchenir, justement, pour savoir si, évidemment, il partage votre avis. Et qu'est-ce qu'il a comme regard, justement, lorsque le chef de l'État, est-ce qu'il peut résister ou est-ce que c'est la rue qui peut gagner, finalement?
Je ne pense pas que la rue, au sens strict, c'est-à-dire que des manifs peuvent provoquer un retrait définitif de la réforme.
Ah bah c'est déjà fait.
Je vais vous dire une chose.
C'est déjà fait, vous considérez? Oui.
Non, parce que elle est encore dans les tuyaux. Ah oui, le CPE, vous voulez dire, en 2004, sous...
Le CIP, c'était Balladur, le CPE, c'était...
D'accord, non, mais sous l'exemple, effectivement, le plus récent était sous De Villepin.
Oui, De
Villepin. C'est déjà arrivé, naturellement. On parle d'Emmanuel Macron, aujourd'hui.
Oui.
On ne parle pas de Juppé, on ne parle pas de Villepin. Emmanuel Macron, je veux dire, il a une situation qui, pour moi, n'est pas la plus inconfortable, puisque alors, c'est qu'un point de vue personnel, mais que je partage avec vous. Si la réforme ne passe pas, il peut aussi dissoudre. Alors après, est-ce que la nouvelle législature et la nouvelle configuration de l'Assemblée va voter une autre réforme? Je ne sais pas. Mais il n'est pas, à mon sens, d'une culture où il recule. On se rappelle la loi travail. C'était Myriam El Khomri qui l'avait portée, mais qui était ministre... sous la tutelle d'Emmanuel Macron aussi. Donc je pense pas que c'est quelqu'un qui va reculer parce que la rue, il a eu les gilets jaunes également, Emmanuel Macron, et là il a aussi géré cette contestation là donc non, formellement je pense pas qu'il va reculer, je pense pas que ce soit son genre de reculer. Il y a eu des aménagements de fait, parce qu'on est passé de 65 à 64 ans, donc ça vaut ce que ça vaut, et puis certains, ça ne trouve pas grâce aux yeux de certains, mais à titre personnel, je pense que cette réforme-là, elle aurait dû être complètement reconfigurée, mais plutôt d'ailleurs dans celle de son précédent quinquennat, dans l'esprit, plutôt que dans l'esprit actuel, de se battre sur un âge qui conviendra à peu de monde finalement, et fonction des situations très différentes. Donc la réponse c'est non, je ne pense pas qu'il va reculer, et je pense effectivement que la contestation peut progresser.
Alors, il va peut-être pas reculer, mais est-ce qu'il prête attention? Est-ce qu'il regarde ça? Est-ce que pour lui, il se dit, le chef de l'État, oui, on peut peut-être bouger quelques éléments dans cette réforme des retraites, peut-être notamment sur la pénibilité.
Est-ce que c'est au chef de l'État? Est-ce que c'est au chef de l'État?
Normalement, c'est l'exécutif.
Est-ce que c'est pas Elisabeth Borne,
si,
par exemple,
si.
et aux députés de se poser la question?
Bah, normalement.
Macron, en ce moment, il est sur des sujets géopolitiques.
Oui.
Naturellement, il doit s'y intéresser, mais.
Abdeslam Itach, rapidement.
Alors, Ménad disait, je ne pense pas qu'il va reculer, mais moi, je pense qu'il doit reculer.
Ah.
Et que, de toute façon, oui, passer de 65 à 64, c'est de façon cachée, il est certain que d'ici 10 ou 15 ans, on reviendra encore sur ce système de retraite, comme ça a été fait par le passé, lorsque l'on est passé de 60 à 62, on nous a dit, c'est bon, on n'ira pas plus loin, aujourd'hui, on se retrouve dans une autre configuration. Et si aujourd'hui, les jeunes lycéens commencent à se mobiliser, c'est parce qu'ils ont très bien compris que les combats perdus aujourd'hui seront définitivement perdus, et les acquis sociaux, ils ont été gagnés comment? Ils ont été gagnés sur la capacité de nuisance lorsqu'on s'est retrouvé justement à bloquer la raffinerie, oui. Les raffineries et autres,
oui.
C'est là que justement que
19h15, on lance vite la pub parce que sinon après c'est... On est coupé sinon. Hein. Et on se retrouve, on va parler d'un autre sujet, une volonté de censure. Ça, c'est la déclaration de la femme de Salah Hamouri qui réagit à l'annulation de sa venue à Lyon. Je ne sais pas si vous avez suivi, évidemment, on va en parler. Y compris, ça fait réagir le maire, enfin, même Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
Qui est intervenu.
A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
19h20, les informés, c'est avec Menna Douchiani, mais également aussi avec Abdeslam Itach.
Les informés, le face-à-face.
Une volonté de censure, ça c'est la déclaration de la femme de Salah Hamouri qui réagit à l'annulation de sa venue. Donc Salah Hamouri, voilà, évidemment, on le rappelle, hein, cette fameuse conférence sur la Palestine organisée par la ville de Lyon. Grosse polémique au point où, si vous voulez, Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a réagi en parlant d'un projet mortifère, et il est heureux que Doucet donc y ait renoncé. Messieurs, tout de suite, je voudrais vous faire réagir, hein, parce que Grégory Doucet, qui est le maire, je le rappelle, donc de la ville de Lyon, qui a annulé donc cette conférence avec le franco-palestinien Salah Hamouri, qui est avocat par ailleurs, mais est un homme aussi engagé sur les questions donc du conflit israélo-palestine. Qu'est-ce que on peut dire évidemment sur cette annulation et puis cet enjeu, parce que ça a provoqué une grosse polémique, Ménad Douchiani.
Alors moi je trouve le mot trop fort de censure. Ils ont organisé une conférence sur les accords d'Oslo le jour de la visite du premier ministre Netanyahou.
C'est ça.
Donc, à mon avis, s'il y a une instrumentalisation, elle est plutôt de ce côté-là. Il y aura censure si vraiment, s'ils souhaitaient réorganiser un peu plus tard la conférence et qu'on ne les laisse pas organiser cette conférence, on va dire, sur le long terme. Mais ils ont voulu jouer, ils ont voulu faire leur, je pense, provoque. Elle a été faite, on en parle, c'est réussi. Mais à mon sens, il ne faudrait pas mélanger politique et géopolitique.
Le grand rabbin de Lyon, vous savez ce qu'il dit? Il dit justement... Daniel Dayan, il estime que cette affaire marque une fracture avec la communauté juive. Je n'attends plus rien du maire de Lyon. Voilà, estimant qu'il a fait preuve de mépris et de bêtise à l'égard de la communauté juive en se rendant pas à la commémoration, la libération du camp d'Auschwitz, pardon, préférant les festivités du Nouvel An chinois.
C'est une bêtise de la part du maire de Lyon, je confirme, effectivement. Il y a, j'ai envie de dire, des priorités. Mais quand on est maire, surtout d'une ville comme Lyon, qui historiquement a eu également qui a payé son tribut à la guerre, et donc la déportation aussi, on a l'idéologie donc de ces maires, cette nouvelle vague de maires très à gauche. J'ai pas envie de dire écolo parce que ça a rien à voir avec l'écologie ces histoires.
Non, rien à voir.
Qui viennent mettre de l'idéologie dans un travail qui doit être celui du maire, le maire, l'élu le plus proche. Des Français, l'élu préféré des Français, on dit qu'il est à portée de claque justement de ses administrés, il ne devrait pas mettre de l'idéologie dans un travail qui devrait être républicain, qui devrait être un travail de rassemblement. Voilà, donc à mon sens, ça fait l'annulation. Alors, c'est malheureux parce que les accords d'Oslo, c'est quand même aussi un bon moment de notre histoire contemporaine. Hein. On a vu quand même Arafat et Yitzhak Rabin se serrer la main, et c'est des images qui font chaud au cœur. Moi, j'étais enfant à l'époque, j'ai pas compris l'incidence. Plus tard, quand on les étudie, on comprend la valeur et la portée symbolique du geste. C'était pas le moment d'organiser une conférence là-dessus avec l'avocat franco-palestinien, effectivement, qui devait venir y intervenir le jour de la visite de Netanyahou. C'était pour moi un coup de provoque. Ils ont réussi leur coup de provoque, donc maintenant on passe à autre chose. Et puis s'ils veulent réorganiser une conférence sur les accords d'Oslo, il y a bien d'autres dates dans le calendrier qui seront disponibles.
Abdeslam Itach.
D'abord, Salah Mouri a été invité à plusieurs reprises à différentes conférences.
Il en a fait des conférences.
Bien sûr. Il n'a pas été censuré.
Non, jamais.
Elsa Lefort, son épouse, lorsqu'elle parle de volonté de censure, de quoi parle-t-on? On parle du 30e anniversaire des accords d'Oslo. Alors, oui. Petit rappel, mon co-débatteur l'a précisé, il s'agissait de la poignée de main historique entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, qui avait été assassiné par un extrémiste israélien, justement parce qu'il ne voulait pas, je dis « il » avec un « s ».
Et Bill Clinton avait contribué, justement.
Bill Clinton était là.
Rappelons l'histoire, il était là, ouais. Il était là, il avait cette fameuse image très forte. Hein. Il avait évidemment, je crois qu'il avait fait, je sais pas quel mot il avait sorti à ce moment-là pour dire, mais.
C'était par rapport à la porte.
Voilà, c'était ça.
Qu'il avait ouvert pour qu'ils puissent tous les deux passer.
Il y en a un qui voulait pas, non, vas-y, je t'en prie, l'autre, je t'en prie. Et Bill Clinton a dit, non, vous savez ce qu'on va faire, on va y aller ensemble.
Ils sont sortis ensemble, exactement. Voilà. Et historiquement,
l'image qui a fait le tour du monde.
Ouais, belle image. Et ils avaient signé. Sur la même table que les accords de Camp David. Donc, vous voyez, c'est fort de symbole, tout ça. Donc, l'anniversaire des accords d'Oslo, moi, je ne vois pas du tout où est la provocation. Ensuite, concernant le rabbin Daniel Dahan, alors, j'ai retrouvé un article. Donc, le grand rabbin de Lyon avait d'ailleurs fait savoir ce vendredi sa décision de se retirer d'un groupe interconfessionnel créé par la mairie de Lyon afin de protester contre sa venue. Mmh. Vous voyez, il ne parle pas du Nouvel An chinois ou je ne sais quoi.
Il a fait, moi, ce que je viens de vous dire, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit dans une.
On a un théologien
dans un communiqué,
qui doit s'occuper que du fait religieux. Et se retrouver à s'engager dans une discussion politique entre le maire de Lyon et l'arrivée de Salah Mouri, un franco-palestinien qui a été expulsé, je ne vois pas trop quel est son rôle un petit peu là-dedans. Donc, vous voyez, c'est. Il y a toujours cette ambiguïté. Ensuite, qu'on ne veuille pas.
Pour ne pas avoir assisté aux commémorations, alors, c'est pour ça que le rabbin a protesté.
Enfin, là, il dit.
Je vous ai cité la déclaration tout à l'heure.
Afin de protester contre sa venue. Ce que je veux juste dire, c'est qu'à un moment, le théologien doit s'occuper du fait religieux et rien d'autre, et pas faire de la politique. Justement, le fait de politiser des choses.
Ben là, il parle politique, non, il me semblait. Quand il fait cette citation, il dit
pas,
que.
C'est parce qu'on demande à l'imam, après,
il fait référence. Il fait référence.
De faire de la politique, c'est pas ce pourquoi on est censé les charger. Ensuite, moi, je veux vous dire une chose. La seule chose que l'on veut, c'est noyer l'histoire des accords d'Oslo avec l'existence de deux États voisins, un État palestinien et un État israélien. Et voyez le problème des Palestiniens encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, Pascal Boniface l'a bien précisé tout à l'heure, lorsque l'on a tout simplement des Palestiniens qui vivent ce qu'ils vivent aujourd'hui. Lorsqu'il y a l'annexion du Koweït, il y a une réaction internationale pour justement chasser Saddam Hussein. Aujourd'hui, avec l'Ukraine, vous voyez, les Russes, et on s'occupe mondialement de ce problème. Et les Palestiniens, ils font quoi? Enfin, ils ont juste le droit de mourir. C'est juste scandaleux. Revenons sur ces résolutions avec l'existence. Et vous savez que la paix réside dans l'existence de deux États voisins, un Palestinien et un Israélien. Je vous rappellerai que les Israéliens ont une nationalité et pas de pays. Et c'est bien ça le problème.
Bon, ça, c'est évidemment, ça, c'est des propos qui vous engagent.
Oui, c'est une opinion personnelle.
Une opinion personnelle.
Non, je pèse mais non, simplement. Je
pensez vraiment qu'aujourd'hui, la visite du Premier ministre Netanyahou. Emmanuel Macron n'a pas vocation à aller résoudre le conflit israélo-palestinien, parce que déjà.
Il va bien régler le problème ukrainien.
Alors non, parce qu'il si. Il était largement intervenu
si,
au début, parce qu'il était président.
Il envoie des chars en Ukraine.
Absolument, c'est pas les seuls. Et alors,
oui,
justement,
c'est pas les seuls.
Le lien,
s'occupe du fait ukrainien.
Parlons-en justement du lien avec le conflit ukrainien. Quand vous regardez les limites géographiques d'Israël, il y a une bonne partie de leurs frontières, notamment nord, c'est la Syrie. Et en Syrie, qui est-ce qui intervient pour soutenir le régime, etc.
Mais la Farge,
la Russie. Voilà, exactement. La Russie. C'est, je suis sûr que
vous
votre
aurez
langue
compris
a fourché.
Ma
je suis sûr que votre langue a fourché. Et donc, Israël n'a pas forcément intérêt à se mettre 100% à dos la Russie, puisque elle contribue quelque part à pas annihiler, mais en tout cas réduire la puissance de frappe de certains de ses ennemis. Mais elle peut pas non plus laisser faire, comme un pays démocratique, comme la plupart des pays démocratiques ne laissent pas faire, l'agression russe en Ukraine. C'est pour ça que d'ailleurs, Israël, qui jusque-là voulait pas fournir de matériel en Ukraine, potentiellement va en fournir, mais plutôt des radars ou du matériel, de la technologie, plus que du matériel de combat, du matériel non létal. C'est ça les discussions qui auront lieu entre M. Macron et M. Netanyahou aujourd'hui. Ils vont pas régler le conflit israélo-palestinien, même si je ne veux pas qu'Emmanuel Macron lui parlera de droits de l'homme, lui parlera de tout ça. Mais c'est pas le sujet.
C'est pas le sujet.
Non, mais je suis ravi, Mena, de vous avoir coché toutes les cases. Donc, Emmanuel Macron donc, s'occupe du fait ukrainien et pas du fait palestinien, mais c'est parfait.
Ah bah j'en sais rien, c'est
non, pas attendez, du fait non, palestinien. Non, je crois qu'il s'occupe, il s'en occupe.
Je l'ai jamais entendu exprimer une indifférence là-dessus, mais ça faudrait demander.
On en reparlera de toute façon. C'est un sujet sur lequel, évidemment, on reviendra sans aucun problème ici, même dans les informés, pour vous apporter tout l'éclairage. Merci Mena Douchenir.
Merci Adil.
Je le rappelle, ancien élu, mais également consultant numérique aujourd'hui.
Absolument.
Ancien élu aussi.
Oui.
Et aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts.
C'est ça.
C'est Abdeslam Itache. Merci à vous. À très bientôt. À la réalisation, c'était Anthony. Merci à Anthony. Bilal Nedman, 20-21. Ensuite, c'est Vanessa, 21h. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le dernier jour de la semaine. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Ok, c'est ça, Anthony. Il est comme ça, Anthony. Il est comme ça. À demain avec autant de plaisir. Mais surtout,
on ne lâche rien.
On ne lâche rien, les amis. Rien. Surtout pas. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.